Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. Épisode 191, mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré,
ah oui,
les gars.
C'est quasiment une retrouvaille, en fait, les gars, là, tu sais, entre-temps, on a été un peu partout, puis on s'est pas revus depuis le dernier podcast aussi, là, fait que là,
Qu'est-ce qui se passe?
On est-tu encore amis, ou...
Ouais, c'est ça, on est juste des collègues.
Ben, je vous dirais Priviette.
Oh, Priviette. OK, ouais, bravo. Ben oui, tu reviens de Russie, toi, mon salaud.
C'est ça, j'étais en Russie, effectivement, pour officiellement
en
mon voyage.
En nuit de noces, Paul! Nuit de noces! As-tu bougé pas mal?
On aurait dormi le matin,
voyons. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça a bougé pendant 10 000 km, vu que j'ai traversé le Transsibérien, fait que c'est très, très cool.
Ouais.
j'ai pris le gré pas sur mon voyage, mais il y a quand même des petits trucs que je voulais mentionner. Notamment, il y a un cinéma super cool à Moscou, un tout petit cinéma là, de deux salles de comme 80 places. Qui est considéré peut-être comme un des cinémas répertoires de Moscou. J'ai fait des petites recherches pour essayer de trouver une place où je pourrais aller voir des films qui ne sont pas doublés russes, hein, donc qui sont sous-titrés. Ça s'appelle le Pioneer. Et c'est très, très cool. Malheureusement, bon, quand on est allé, on avait juste deux choix, c'était Dumbo ou Shazam. Fait que là, on est allé voir Shazam, finalement.
Ah, j'espère!
Avez-vous vu Dumbo? L'avez-vous vu ou pas?
Non, c'est ça, on a pris Shazam. Mais tu sais, comme, finalement...
Mais t'as-tu vu Dumbo, Pascal?
Non.
Ah, okay,
c'est ça qui est
capotant,
c'est
pas,
que...
Excuse-moi.
me semble que j'étais excité. Comme, tu sais, des fois, les campagnes sont tellement longues autour des films que, tu sais, comme, quand t'es excité, puis là, le film sort, puis comme on dirait que ton excitation, il y a 11 mois, il y a 9 mois, je sais pas trop, puis c'est ça, Dumbo, c'est un de ces films-là. Moi, le film que ça m'avait vraiment fait ça, c'était Silence de Scorsese, là. J'étais trop hype, genre, en amont, là, puis on dirait qu'il est comme sorti, puis il m'a comme filé entre les doigts, là, c'est capotant. En tout cas, puis Dumbo m'a fait exactement le même effet. Fait que non, je l'ai pas vu, puis là, il doit même plus être en salle, j'imagine. Fait que...
Le seul podcast cinéphile au monde où on compare Dumbo et une œuvre de Scorsese.
ouais. Mais bon, fait que Shazam.
Je vais pas tant parler de Shazam parce que c'est un film comme somme toute assez correct, quand même très très drôle. Hein, j'ai bien aimé. On a eu beaucoup de beau temps, mais c'est un film vraiment Netflixable dans le sens que je pense pas qu'il faut se pitcher au cinéma pour aller voir ça. Ceci dit, le concept il est très rigolo. Là. C'est vraiment comme un garçon de comme 15 ans, adolescent, qui soudainement obtient des pouvoirs et lorsqu'il crie Shazam, il devient cette espèce de homme super musclé. Donc là, c'est comme une espèce de jeu où c'est encore une fois, c'est un acteur qui joue un rôle d'adolescent, un peu à la Jumanji avec The Rock et Jack Black et tout ça. Donc c'est un peu le même jeu très cool avec les acteurs âgés qui incarnent des adolescents. Mais c'est à peu près la seule chose, ben, ça puis de l'humour qui est le fun. Mais bon, on en soupe, hein, des films de super-héros. Mais ce que je voulais signaler, en fait, c'est que le Pioneer, ils ont un concept très cool que je crois pas, malheureusement, qu'avec la réglementation au Québec et au Canada, ça serait possible d'implémenter, mais je trouvais ça cool de le souligner. C'est que lorsque c'est sold out, en fait, les billets, et ça l'était pour Shazam parce que c'est un tout petit cinéma, ils offrent des places à comme 5$, mais dans le fond, ils font juste te donner un coussin, puis tu t'assois comme sur le bord d'une des allées, puis tu déranges personne, puis c'est comme « écoute le film ». Puis je trouve ça quand même drôle. Fait que là, moi puis ma blonde, ben moi puis ma femme, on a vu Shazam assis sur des coussins sous le bord d'une rangée avec une colonne qui cachait peut-être genre 10% de l'écran.
Oh my god, les meilleures conditions, ça.
Puis tu sais, genre, ça a l'air un peu ridicule, dis de même, mais genre, je vais toujours m'en rappeler de cette séance.
Ben oui, c'est ça, c'est clair.
Fait que, en tout cas, je trouvais ça drôle. Fait que shout out au Pioneer de Moscou.
Bon.
Et aussi, vite fait, j'ai écouté plusieurs trucs dans l'avion également parce qu'on y avait parce qu'il y avait mon Dieu pour traverser le monde comme ça.
Man, moi aussi, je t'en parle de rubrique film d'avion. Moi, je pense qu'on va avoir une bonne rubrique film d'avion dans cet épisode-là. Des reviews éclairs film d'avion là, et Chris.
Ben oui, okay. Le retour, ça m'a pris comme 27 heures de transfert et d'avion et d'attente, tout ça. Et mon gros coup de cœur du voyage, en fait, c'est un film japonais qui s'appelle One Cut of the Dead de Shinichiro Ueda.
Ah oui, tu m'as comme chardé que j'allais triper, là. Il y a comme plein de monde qui m'ont écrit pour me dire que c'était malade, cette affaire-là.
C'est incroyable. C'est vraiment un des meilleurs films des dernières années. J'ai adoré ça. Je le crois... Je suis pas mal sûr qu'il était dans le top 25 ou le top 30 de Panorama Cinéma cette année. Je sais pas trop s'il est sorti à Montréal officiellement en salle ou s'il y a seulement une distribution sur Blu-ray. C'est quand même un petit film à très peu de budget.
Mm-hmm.
Et c'est si j'en parle, dans le fond, ça va un peu le spoiler. Mais c'est le genre de film aussi que ça fait bon. Ça fait comme 2 ans qu'il est sorti. Puis j'ai l'impression que j'aime quand même mieux un peu vous dire ce qui se passe pour vous donner le goût de le voir parce que c'est vraiment un concept génial. Ça commence, c'est donc un plateau de tournage. Une équipe qui fait un film de zombies. Mais là, soudainement, il y a un vrai virus qui se propage. Il y a des vrais zombies qui attaquent le plateau de zombies.
Mm-hmm.
Et là, c'est vraiment comme pendant le tournage, le chaos. Mais pendant ce temps-là, t'as comme le réalisateur super crinqué qui force son équipe à continuer à jouer puis qui capote parce qu'il adore ça. Parce que là, soudainement, les acteurs sont super bons puis sont vraiment terrifiés. Puis là, c'est un peu comme l'espèce de tout le jeu sur jusqu'à où on va pour l'art, ouais, puis ouais. Des trucs comme ça.
Un peu comme le truc de Sion Sono, là, son. Comment ça s'appelait déjà?
Why Don't You Play in Hell,
ouais,
qui me fait
ouais,
un petit peu penser
ouais.
à ça, peut-être. Là.
Ouais, ouais, il y a un peu l'énergie de ça. Puis c'est tourné un peu, c'est sa façon, comme c'est comme l'équipe de tournage qui tourne les plans, tout ça. C'est du fond de footage un peu à la. C'est arrivé près de chez vous, qui rencontrerait peut-être Shaun of the Dead, tu sais. Puis ça, ça dure, c'est à peu près 45 minutes. Et là, on voit le générique qui part. Puis là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ensuite, il y a comme une espèce de flashback, genre 3 mois plus tôt. Et tu te rends compte que c'est une équipe de tournage d'une nouvelle chaîne de télé qui engage un jeune cinéaste, tu sais, un peu tâcheron, là, qui fait ses propres trucs, qui n'a pas encore percé. Mmh. Et ils veulent faire un spécial d'une heure, un film de zombies. Et le concept, c'est que ça va être diffusé en direct sur la toute nouvelle chaîne pour comme lancer la chaîne, la nouvelle chaîne télé. Et là, il y a un mini-budget pour faire ça, mais ils décident quand même de le faire parce que tous les autres réalisateurs comme, ont dit non parce que c'était trop casse-gueule. Et là, on se rend compte que toutes les espèces de pauses, puis de maladresses, puis de petits trucs weird pendant les premiers 45 minutes s'expliquent parce que c'est du direct et que l'équipe de tournage a dû faire des miracles pour arriver à faire ce film-là.
Mm-hmm.
Et donc, par exemple, le réalisateur du film dans le film, qui s'appelle One Cut of the Dead, remplace l'acteur qui était engagé pour jouer le réalisateur à la dernière seconde, parce que là, il peut pas le faire, tout ça. Et là, il se met à comme un peu improviser, puis comme... Fait c'est vraiment une espèce de truc super méta, super le fun. Et, tu sais, vraiment, je pense pour les cinéphiles, pour les cinéastes, pour les gens qui comprennent aussi l'horreur, ou même juste le cinéma en général... Puis tu sais, comme surtout le cinéma à petit budget, c'est une mine d'or de trouvailles puis d'explications. Puis comme ça fait que tout ce qu'on a vu avant est comme vraiment, tu sais, il y a vraiment des payoffs pour genre tous les trucs. Au début, t'es comme pas sûr ou tu te demandes. Puis là, soudainement, c'est le jeu un peu, c'est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer puis qu'est-ce qu'ils vont expliquer. Puis d'essayer de se rappeler de ce qu'on a vu au début puis de se dire, ah, ça, comment qu'ils vont le détourner finalement.
Mm-hmm.
Donc, grosse, grosse surprise. Vraiment un excellent film. Beaucoup d'humour. Très cool. Et, tu sais, je veux dire, même pour ceux qui n'aiment pas l'horreur, tu sais, c'est pas un film vraiment gore. Ni,
ça, c'est plus sur le ton de la comédie quand même.
Ouais, ouais, ouais. Ça me fait aussi penser à un film japonais que j'avais vu à un moment donné. Je pense qu'on l'a écouté ensemble, là, Fall Guy, là, sur une espèce de cascadeur, là, qui veut faire la plus grande cascade de l'histoire du Japon.
Moi, j'ai pas vu ça.
Non?
Non plus.
Ok, bon, en tout cas, j'avais écouté avec des amis, c'était très très cool ce film-là.
D'autres amis?
Ouais, c'est ça, d'autres amis!
C'est
vrai qu'on n'avait pas le temps de se voir, là, je comprends pas.
Donc, One Cut of the Dead de Shinichiro Ueda.
Ah.
Et toi, Pascal, tu parlais d'avion, là, mais t'arrives de où comme ça, là?
Ben écoute, c'est une transition, c'est une double bonne transition, parce que tu me fais une transition film d'avion, film japonais, wow, ok, va te prendre la balle au bon, mon chum.
Et tournage, et cinéma.
Et tournage, et cinéma.
Ouais, ouais.
Ben en fait, oui, je reviens de repérage à Tokyo, en fait, parce que ben il y a une partie du film que je tourne cet été qui va se tourner à Tokyo. Et donc, puis je me rappellerai que Paul Landriau, je te mets sur le spotlight, t'avais parlé d'un cinéaste qui s'appelle Daisuke Miyazaki, et t'avais été très tiède par rapport à son film Tourisme.
Oui, oui.
Et que j'ai vu, mais pour la simple et bonne raison que Daisuke nous prête main forte, en fait, pour notre tournage. Donc on a rencontré
Daisuke. Ben là, c'est pas pareil.
Puis, en fait,
faut pas que tu lui dises ça.
Mais non, j'y ai pas dit. Mais moi, je l'ai vu, moi, je l'ai trouvé un petit peu mou, je suis un peu d'accord avec tes critiques. Ceci dit, moi, je trouve que, tu sais, c'est Tourisme, c'est le genre de film que c'est tellement libre, puis c'est tellement un peu capté d'une façon spontané, mais en même temps, il y a quand même de la réflexion derrière, là, puis on en a parlé. Mais bon, c'est un film qui te donne envie de faire des films, puis je pense qu'il y a un petit peu ce caractère-là. T'sais, on voulait quelqu'un qui était capable de nous amener sur le chemin, d'être un petit peu guérilla, un petit peu cowboy quand il faut. Donc shout-out à Daisuke, avec qui on a passé du très bon temps à Tokyo. Puis j'ai vu, mais je vais en profiter pour en parler, d'un autre film qui avait fait sa première mondiale au FNC, Back in the Days, là, je crois que c'est 2015. Je pourrais me tromper, j'ai pas de notes sous les yeux. C'est Yamato, California, de Daisuke, donc Miyazaki, qui est un film vraiment plus scénarisé, plus construit. Puis tu disais, quand t'en avais parlé de Daisuke Miyazaki, t'avais dit, ah, tu sais, il y a comme du hype, il y a des gens qui aiment son cinéma, puis tu comprenais pas trop pourquoi. Je pense que ce film-là est vraiment beaucoup la raison. Mais j'en parlerai pas vraiment parce que j'ai d'autres films que je veux parler, fait que je fais juste le shout-out Yamato, California. Et donc oui, on a passé 10 jours à Tokyo. Tokyo, c'est 13 heures de vol. Nous, on a eu un vol direct à l'aller. Mon Dieu, c'est incroyable. Montréal-Tokyo direct. Mais ça, ce que ça fait, c'est que t'as le temps de voir des films anti-péché, les amis. Qu'est-ce que j'ai vu, donc? J'ai regardé comme plein de documentaires niaiseux, là, genre des affaires sur des pandas,
mais c'est,
ou sur des pyramides.
Mais c'est le fun des documentaires dans l'avion, je trouve. C'est cool.
Ouais.
Des affaires de pandas ou de pyramides. Je vois le jour des clubs vidéo, où t'avais genre une section dans le club vidéo, puis c'est comme section panda et pyramide.
Hey, mais je peux te faire une parenthèse pour couper, Pascal?
Non, vas-y.
Un documentaire que j'ai découvert dans l'avion, vraiment sympathique, qui est maintenant disponible sur Netflix, c'est Perfect Bid.
Mm-hmm.
Puis c'est à propos d'un gars qui tripait sur The Price is Right, genre.
Oh.
Et tu sais, The Price is Right, c'est un des quiz télé les plus populaires de l'histoire,
Ben oui.
Qui est encore en onde. Et dans le fond, on fait deviner les prix de produits quelconques et les personnes les plus proches peuvent gagner les prix de ça. Et lui avait commencé un peu à mémoriser les prix parce qu'il y avait certains prix qui revenaient, mm-hmm. certains modèles qui revenaient. Mais ouais. Là, puis il était vraiment fan. Puis à un moment donné, il commence à se faire des tableaux Excel. Puis à se faire des programmes pour se pratiquer. Et tu sais, c'est le genre d'émission qui a un public, là. Fait que là, tu peux assister. Tu vas faire la file dehors du studio, puis t'espères pouvoir rentrer. Puis c'est comme... Il y a comme un peu... pas tricher le système, mais il y a comme... Tu sais, gagner contre le système, dans un sens. Mm. Puis il se met à comme... Parce que c'est pas nécessairement lui qui va participer à l'émission, mais il est dans le public. Puis il se met à crier les prix exacts aux participants. Puis genre, c'est des trucs de fou. Fait que là, le studio est obligé de... Tu sais, la compagnie de production est obligée de revoir les règles de The Price is Right puis de changer certains trucs. Mm. Parce que, tu sais, c'est pas une forme de triche, mais c'est comme... Ils s'attendaient pas à ce qu'un spectateur écoute toutes les émissions puis se fasse des gros, genre, spreadsheets de comme toutes les prix.
Ouais, dis ça, là.
Fait que c'est quand même... C'est ça, c'est pas un documentaire, tu sais, fascinant ou révolutionnaire, mais c'est genre chose, c'est le genre de petit truc qui s'écoute parfait dans un avion ou sur Netflix. Donc, Perfect Bid, je vous le recommande.
Mais moi, là, c'est parce que je vais vous en mentionner juste un. Ah, j'ai vu, by the way, Rémi.
Ouais, t'as vu combien de films dans l'avion? Bah... C'est en Japon, là, c'est quand même...
Ouais, ben non, mais tu sais, faut dormir aussi, là, puis tu sais, c'est pas juste de l'écoutage de films, quand même. Mais j'ai quand même vu Spider-Man Homecoming, là, que j'ai... Tu me l'avais super bien vendu, puis j'adore assez avec toi, là. Je pense que ça transcende rapidement l'idée d'un film de super-héros comme un autre, là. Tu sais, je pense qu'il y a assez de bonbons visuels pour que t'embarques dans une nouvelle affaire, puis aussi... Ça joue de façon méta-textuelle sur comme, ben oui, vous la connaissez, la origin story, c'est bon, vous la garoche un peu en pré-mâché, mais d'une façon vraiment
astucieuse.
Toi, tu parles de multiverse, là.
Ouais, Spider-verse. C'est ça.
Oh, oui, c'est ça, oui.
Homecoming, c'est l'autre d'avant avec Tom Holland.
Esprit, ok, ouais.
Michael Keaton. T'as vu lequel, finalement?
Mais j'ai vu l'animation.
Ok, c'est bon.
Regarde, vois-tu
la fraîche? Finalement, j'ai vu Spider-Man de Sam Raimi.
Là, Spider-Man 2.
J'ai vu celui avec Andrew Garfield, le deuxième. C'est-tu qui est méchant, le gars avec les éclairs?
Bon, ok. Mais il y en a combien d'écrits de Spider-Man, pour vrai? C'est ça la joke, là?
Il y en a un dans deux mois, là.
Il y a la trilogie de Sam Raimi, il y a les deux après avec Andrew Garfield.
Ouais.
Puis là, il y a celui Homecoming avec Tom Holland. Il y a l'animation qui vient de sortir. Puis là, il y en a un nouveau qui va sortir dans pas long. Tu me trompes dessus?
Ouais, ben, je sais pas, mais c'est, moi, c'est l'animation que j'ai vue, puis je te rejoins, en fait, là, j'étais assez enthousiaste, là, c'était le fun, c'était du bonbon, là, ça se passait super bien, puis visuellement aussi, je pense que c'est assez, il y a plein de trouvailles
trip,
visuelles, puis ouais, beaucoup aimé, voilà, mais tristement, les gars, là,
ouais.
J'ai regardé un film d'un cinéaste que jamais j'aurais pensé que j'allais mettre un peu dans la catégorie film d'avion, là, en 2019, ok, tu m'aurais demandé ça, là, après avoir vu Rebelle en 2010, puis j'aurais dit jamais que c'est un cinéaste de film d'avion. Ben, tabarnak, j'ai vu The Hummingbird Project de Kim Nguyen dans l'avion. Je vais en parler un peu. Fait que Hummingbird Project, ben, déjà le pitch, vous connaissez un peu de quoi ça parle ou pas du tout, du tout?
Ouais. Ouais.
Toi, moi, je sais pas du tout, tu peux nous introduire.
Ben, c'est Jesse Eisenberg, qui joue toujours un peu Jesse Eisenberg, qui se lance avec son partenaire, de son demi-frère, en fait, là, c'est joué par Alexander Skarsgård. J'ai construit son nom, là, désolé pour ça. Bref, mais qui, lui, est très, 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 très bon. Là, je fais une parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse, mais ça, c'est lui qui vole le show au niveau du jeu et au niveau de tout dans ce film. Et il se lance dans l'entreprise titanesque de construire un tunnel reliant Chicago à New York, Wall Street, pour avec la fibre optique, pour être des microsecondes, des millisecondes plus rapides que le marché pour donc avoir un genre de gain de temps sur les transactions bancaires et ainsi faire des tonnes de pognon. Mais en fait, le film fait quand même ça de bien, c'est-à-dire il prend un concept qui pourrait être opaque, pourrait être un peu barbant ou un peu dur à saisir. Ils le vulgarisent donc assez pour qu'on embarque dans leur délire puis qu'on comprenne la quête. C'est point A, point B, puis il y a des embûches. Mais c'est pas complètement abruti non plus. Je pense que ça a quand même un petit quelque chose à dire sur le marché boursier, j'imagine, ou l'espèce de folie des grandeurs, de ces espèces de rêves-là. Donc, comment dire... Tu deviens un peu comme le nouveau dieu de l'Olympe, là, si tu domines Wall Street, puis ça, je pense que le film le montre bien à travers la psychologie des protagonistes. Mais ce film-là, les amis, là, c'est en panne d'idées visuelles comme j'ai rarement vu. Je veux dire, tu sais, mettons Kim Nguyen, qui okay, est post-rebelle. Tu sais, mettons Two Lovers and a Bear. Moi, je trouve que c'est un film qui était très bordélique. Mais... ça osait beaucoup, tu sais, au niveau scénaristique, des fois un choix musical saugrenu, un mouvement de caméra, tu sais, il y avait toujours un peu quelque chose pour se refaire une palette là avec le film, puis juste comme rembarquer au niveau des idées puis tu sais de la verve un peu d'auteur. Même si c'était, comme je disais, c'était un film qui moi m'avait un peu, je l'ai trouvé vraiment trop désorganisé peut-être. Mais là, je te dis, là, il y a... Puis Ion Juliette, mon Dieu, n'en parlons pas. Mais là, je pense que ce film-là et le film... On dirait qu'un robot, un algorithme aurait pu réaliser ce film-là. Je veux dire, il y a pas un traître plan de caméra, un traître mouvement, une traître décision artistique dans Hummingbird Project qui détonne. Puis c'est pas que ça soit obligatoire. Il y a plein de cinéastes qui réussissent à faire du classique très bien fait, mais tu vas tout le temps savoir, oh, OK, là, il a choisi de mettre une long lens puis de faire son plan statique de cette façon-là, de cet angle-là, pour révéler ou ne pas révéler telle ou telle info de façon intelligente visuellement. J'ai été abasourdi par l'analphabétisme visuel et cinématographique de Hummingbird Project. Ça m'a fait capoter, en fait.
Bon, on salue Kim, si nous écoute.
Non, mais je trouve que le scénario est compétent. Les deux performances centrales sont compétentes. Ah oui, puis mon Dieu. Il y a le personnage de femme forte joué par Selma Hayek. Je dis femme forte, là, entre gros guillemets, là, tu sais, genre le trope d'une femme forte en 2019, mais qui marche plus, mettons, là. Tu sais, elle est censée jouer une genre de magnate d'affaires, là, un peu pas sanguinaire, mais tu sais, un peu requin, puis... mais tu sais, je veux dire, tout ce que tu vois, c'est Selma Hayek dans son espèce de tailleur, là, ajusté, là, puis genre sexy, puis c'est comme, non, là, j'y crois juste pas, là, je suis désolé, là. C'est un miscast complet et total. Puis il y a comme l'autre personnage, pseudo-femme forte de Anna Maguire, interprété par Anna Maguire, qui se fait donc dire à toutes les fois qu'elle est comme intelligente puis brillante, mais elle fait à rien pour le prouver. Elle se fait juste dire à quel point c'est « she's one of the best », mais littéralement, là, tout ce qu'elle fait dans le film pour faire progresser le récit, c'est qu'elle trouve un jeune d'université qui a fait une thèse qui va faire en sorte qu'ils vont avoir une technologie. Fait qu'elle, dans le fond, elle trouve un jeune asiatique geek fresh de l'université, puis c'est sa seule contribution au film. T'es comme « man, pour vrai ». En tout cas, fait que Hummingbird Project, je peux pas vous dire que j'ai été très, très, très enthousiaste. C'est film d'avion at best pour moi. Voilà.
Il y a eu une drôle de carrière quand même. T'sais, il a commencé avec du film de genre, avec ultra stylisé. C'est comme son cinéma, c'est vraiment comme épuré là, des artifices. Pour arriver à Rebelle, où là, c'était très naturel comme cinéma. Ouais. C'est plus dans les émotions, dans les performances. Puis là, il doit chercher, là, pauvre petit.
Mais c'est ça qui est drôle, mais c'est que le scénario est bon, en fait, puis il l'a écrit, puis ça, je vais lui donner pour de vrai. Je trouve que c'est un sujet comme on l'a rarement vu. Tu sais, ça avait un peu les ingrédients d'un Ocean's Eleven, puis tu sais, c'est correct, tu sais, c'est pas... J'ai rien contre le genre du cinématographique, ou tu sais, comme... Ou même la volonté, carrément, de faire un film qui plaît à un plus large public. C'est pas du tout... c'est pas ça, là, le problème. C'est vraiment comme des mauvais choix de casting, puis des pannes d'idées visuelles, voilà. Mais dans un bon scénario, donc c'est pas complètement... comment dire? Je sonne pire que j'étais. J'ai été diverti. Le scénario, l'histoire m'a embarqué. Mm-hmm. De façon primitive, là, ça va. Il n'y a pas de grande défaillance, mais mon Dieu, qu'on s'attend à plus. Je sais pas. Fait que ce sera ça pour moi, pour The Hummingbird Project.
Bon, donc un voyage cinématographique un peu moins inspirant de ton côté.
Ouais, c'est ça. Mais je vais quand même juste vous parler, parce que c'est ça, on a été au Japon 10 jours, c'est merveilleux. Kanpai, les amis, vraiment, santé, c'est le fun, le Japon. J'aurai l'occasion de vous en parler beaucoup plus, mais je veux juste faire une petite transition, après ça, je vais me fermer la gueule, parce que là, je monopolise le floor. Mais j'ai vu des films de cinéastes qui, et là je vais vous en parler pour la simple et unique raison, qu'au cinéma moderne, ils font une rétrospective de son œuvre et M. Ryosuke Hamaguchi sera à Montréal, fera une classe de maître ce dimanche à 5h15 au cinéma moderne.
Puis ça, c'est très très cool, hein. Oui. Ça fait même pas un an que le moderne est établi, puis comme ça fait plusieurs cinéastes comme ça qu'ils invitent. J'en ai vu une rétrospective, ben, une séance avec une cinéaste thaïlandaise. Il y avait vraiment comme une volonté de puis les moyens puis les partenaires pour inviter des gens comme ça, puis ça c'est vraiment cool.
Ouais, mais c'est ça, je veux vraiment juste vous aiguiller un peu sur le cinéma de monsieur Hamaguchi. Donc lui, moi je l'ai découvert avec un film qui s'appelle Happy Hour, qui est divisé en trois parties quand on va le voir, si vous allez le voir en salle au moderne, pour la simple et bonne raison que c'est un film de plus de 5 heures. Donc même en trois parties, c'est trois bonnes parties assez copieuses, là. Ça vaut trois prix de billet, puis la qualité du film vaut trois prix de billet, là. C'est vraiment un film superbe qui a commencé comme un workshop avec des non-acteurs sur de l'improvisation. Puis c'est comme devenu cette espèce d'œuvre-là au fil du temps. C'est centré sur quatre amis. Donc juste un genre de film de la vie qui passe, les aléas de la vie à travers quatre personnages et une disparition. Donc l'une de ces quatre protagonistes-là disparaît mystérieusement. Tu sais, même là, je veux dire, c'est vraiment, ça se trouve c'est genre à la fin du part 1, là, si vous le voyez en salle, fait que tu sais, en tout cas, c'est un film de 5 heures, fait que faut
quatre amis au film d'un,
oui, amis eux, et bon, évidemment, il y aurait vraiment plus à dire, mais moi j'aime donc la patience, comme les scènes qui se déploient. Des fois t'as une scène que t'es captivé, puis tu te rends compte, mon Dieu, ça fait une demi-heure qu'on est dans un resto, puis qu'ils jasent, mais je le fais sonner vraiment plus sec que c'est, là, c'est toujours passionnant, toujours, mais dans les petits détails aussi. Puis il y a quand même un flair pour élever au niveau métaphorique certaines choses dans l'œuvre, des motifs visuels. C'est vraiment superbe. Puis je vous aiguille aussi sur Asako 1 et 2, qui est en compétition à Cannes l'année dernière. Et lui, 2 heures, là, donc c'est un film digeste d'une traite. Lui, il va jouer dimanche et lundi, 12 et 13 mai. Fait que c'est son dernier film, son plus récent, un film. Donc, sur Asako, qui... coup de foudre total avec un homme, donc, mais en prologue du film, et cet homme-là disparaît aussi, donc encore une fois, hein, la disparition, on voit peut-être des traits communs entre les deux œuvres, et puis là, s'ensuit des ellipses, une genre de peine d'amour qui se métamorphose avec une nouvelle relation d'un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au premier homme, puis là ensuite je vous révélerai rien, mais il prend des tournants hyper audacieux dans la dernière demi-heure, vraiment superbe, là. Donc c'est pas juste du drame, il fait quand même du cinéma, il y a des tournants, il y a du mystère, il y a de la métaphore, non, c'est vraiment un superbe cinéaste en pleine possession de ses moyens, et il est à Montréal en fin de semaine, donc allez voir ça, voilà.
Super, ben écoute, merci Pascal. Et parlant de Cannes,
oh ben.
Entre le dernier épisode et maintenant, on a eu toutes les annonces et toutes les sélections de Cannes, et même dans quelques jours à peine, c'est le coup d'envoi.
Ouais.
Du festival le plus prestigieux au monde. Coup d'envoi qui se fera grâce aux zombies. Donc, comme tout est dans tout aujourd'hui.
Tout est dans tout, oui. Hein.
Aux zombies de Jim Jarmusch, de Death Don't Die, avec un casting incroyable. Tu sais, comme, oui, OK, Avengers Endgame, il y a beaucoup de vedettes, là. Mais Jarmusch aussi est capable d'assembler tout un méchant casting.
Ouais, ouais, genre Jarmusch, Wes Anderson, puis accessoirement les Avengers. Ouais, ouais,
ouais. Donc, ça, c'est très, très cool. Et, ben oui, je vous lance un peu la balle au bon. Qu'est-ce qu'on pense de cette édition? Évidemment, bon, il faut souligner tous les Québécois qui sont là. Xavier Dolan en compétition avec Mathias et Maxime, alors que son avant-dernier est toujours pas sorti au Québec, même s'il est sorti en France. Mm-hmm. Ça, c'est un peu étrange, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier film de Monia Chokri.
Monia Chokri, ouais.
Qui est pas en compétition, mais dans la section Un certain regard.
Ben, la compétition Un certain regard, c'est une compétition aussi.
Oui, 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 mais oui. Pas la compétition principale.
Exact.
Oui, oui, mais c'est correct, là, elle va se contenter de ça, là, mais ça.
Non, non,
mais
c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, je pense que c'est le film qui ouvre Un certain regard, oui, là. C'est le frère de Monia Chokri.
Puis Rémi, alors... elle est en compétition avec Jeanne de Bruno Dumont, ton film le plus attendu de l'année.
Ah, calé, ça. Pas cette affaire-là. J'en reviens pas qu'il y a du suite, là. C'est comme le trolling, il va un petit peu trop loin, là.
Et aussi, c'est, je trouve ça cool de souligner It Must Be Heaven de Elias Souleymane, qui a été tourné à Montréal il y a pas si longtemps. Et donc, plusieurs Québécois et artisans d'ici qui ont travaillé sur le film.
Exact.
C'est un wink, ça?
Comment?
c'est un wink. Non, c'est parce que je suis en train de monter le making-of de ça.
Ah oui.
En fait, je suis en train de monter des capsules, puis c'est comme... C'est assez spécial parce que, tu sais, c'est un cinéaste qui est assez secret, puis qui fait... Tu sais, qu'il y a comme... Il prend du temps à faire chacun de ses films. C'est des films comme... Ben là, moi, je le connaissais pas, en fait, puis j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu parles de cinéma palestinien, puis on dirait que, moi, de base, le déclic, c'est... Ah, ça va être lourd, là. Ça va être des films ultra dramatiques. Puis, il me semble qu'il y a comme un genre de préconception de fait, mais c'est genre des comédies à la Jacques Tati, là. C'est des... C'est lui qui joue les rôles principaux dans ses films. Puis c'est des comédies de situation avec des espèces de tableaux. Ça marche un peu par sketch. Puis c'est des trucs limite burlesques avec très peu de dialogue. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, il y a un producteur qui m'a contacté pour monter les images qui avaient été tournées à Montréal. Fait que j'ai comme un petit regard exclusif sur le plateau. Ben ouais, ça a l'air quand même assez épique. Là. Pour vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, juste de voir les coulisses, c'était quand même un gros plateau. Là. Il y a comme une scène qui a été tournée. Ils ont bloqué la rue Bernard dans le Myland pour tourner une scène d'Halloween avec plein de figurants. Puis tout. C'est, c'est comme des trucs ultra impressionnants dans la mise en scène. Fait que c'est ça. Moi, j'ai hâte de le voir, celui-là.
T'as-tu vu, lui, il s'est fait beaucoup connaître. Puis son film, un peu plus référence, mettons, c'est pas mal Intervention divine, là.
Ouais,
en 2002.
C'est là que j'ai vu. Ouais,
ouais, exactement. Ouais, c'est ça.
J'ai
vraiment,
pas vu le deuxième, celui qui suivait, par exemple.
Non, moi non plus. Mais
Intervention divine, c'est vraiment solide, là. C'est, ouais, je m'attendais pas, justement, à avoir autant de fun à regarder ça. Tu sais, je le regardais au début pour le travail, là, pour savoir un peu c'était quoi le style dans lequel je vais monter. Puis mais c'est riche comme film. Ben, autant, tu sais, c'est un discours politique qui va passer par la comédie, puis
exact,
par la comédie
ça.
Sans dialogue. Fait que c'est assez accessible et très international. Fait que ouais, je recommande vraiment de tomber dans son cinéma, Elias Souleymane. Puis ça, on l'attend. Là. Ça va sûrement prendre un an avant qu'on le voit au Québec, là, mais j'ai hâte.
Ah, ben peut-être pas. Je pense que, tu sais, mettons comme le film de Monia... Chokri, on va arrêter de le dire, le film de Monia Chokri, on va l'appeler par son nom, La femme de mon frère.
Ouais, ouais.
Ben, il sort en salle en juin, donc je pense que c'est bon, là. Ne serait-ce que les films québécois, ça m'étonnerait pas là, qu'ils sortent plus tôt que tard. En tout cas, on l'espère, on va croiser les doigts. Fait que toi Rémi, là, à vue de nez, compétition, qu'est-ce qui te...
Ben là, je veux dire, il y a comme tellement des gros noms cette année, puis des trucs qui ont été confirmés de dernière minute, tu sais, Tarantino qui se pointe, je veux dire, c'est un peu une évidence, tu sais, bon, Terrence Malick, ça m'excite un peu moins, mais tu sais, quand il en fait un bon, il en fait un bon, Bong Joon-ho, moi, je suis un vendu, fait que peu importe ce qu'il fait, je vais être là, dès que je peux le voir, je vais être aux premières loges... Puis tu sais, on peut nommer aussi, c'est dans la quinzaine des réalisateurs, mais on va faire un wink à l'ami du podcast Quentin Dupieux, avec le nain.
Ouais,
ami du
ouais.
podcast Quentin Dupieux. Non, mais Quentin Dupieux qui arrive avec son film avec Jean Dujardin qui a l'air tellement hip.
Ouais,
moi, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Oui, qui nous en avait glissé un mot d'ailleurs, donc
ouais. Ouais, c'est oui, cool. Oui, c'est vrai, il nous en a parlé. Ben oui.
Vas-y, Pascal.
Non, mais je peux te parler de quelque chose?
Oui. Ah.
Le poster de Mathias et Maxime, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ouais, c'est drôle, j'avais la même discussion aujourd'hui avec un de mes amis. Ben écoute,
On voit, qu'est-ce que ça essaie de référencer.
Ouais, ça fait genre c'est-à-dire, 90s.
French New Wave à côté, là, même les, avec la tagline Les copains d'abord, là, on évoque une époque en France. Puis là, t'es comme, mais c'est pas censé être genre son grand retour québécois.
Avec ça, là.
Je sais pas, je trouve ça hyper dissonant, le marketing, l'enrobage visuel du film avec un peu ce que, ben, l'idée que je m'en étais fait d'une certaine façon. Je comprends franchement pas. Je pense qu'il y a une volonté de pas se mettre sa grosse face en gros plan sur un poster. Ça, c'est clair. Je pense que l'idée, c'est de faire...
Tu dis ça, mais quand même, tu vois les photos, tu reconnais à peu près partout.
Ouais, je sais. Mais tu sais, mais je pense quand même que l'idée, c'est de vendre un film de jeunesse, de groupe, de c'est ça, genre de tribu, un peu, là. Bon, ça, je comprends ça, mais je veux dire... La référence infographique, elle est je veux dire, c'est une pastiche, là. Je veux dire, tu sais, comme mettons, je sais pas, un film comme The Love Witch fait une pastiche d'un poster d'une époque précise, t'es comme, tu comprends, parce que si le film est en soi, pas une pastiche, mais on se comprend, là, tu sais, mais je veux dire, ce film-là, surtout l'univers de Xavier Dolan, qui commençait, à transcender ses influences, tu sais. Tu sais, ces deux premiers films, on le taxait beaucoup. Wong Kar-wai, les références, tu sais, c'était comme évident de où est-ce qu'il venait. Puis je trouvais que ce beau qui commence à s'en affranchir, puis qui commence à devenir sa propre bébite. Puis là, il nous repointe. Je sais que c'est juste un poster, OK? Là, faut vraiment pas que j'ambitionne avec ça, là. Mais je trouve que comme là, t'es tout à coup, c'est comme... Il essaye d'être quelqu'un d'autre, puis ça, je trouve ça vraiment weird. Mais
ben, moi, je vais peut-être être controversé, mais c'est rare que j'ai aimé un poster que Xavier Dolan... En général, la fin du monde, je trouve ça genre lazy as fuck. Mommy, je trouve ça affreux. Là, c'est juste une photo du film avec le collier en dessous. Là. Mm-hmm. Pour vrai, OK, il y a peut-être un peu plus de recherche visuelle que les posters de comédie québécoise où t'as genre deux acteurs qui se tiennent dos à dos sur un fond blanc. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, pour vrai, Mommy, il n'y a pas vraiment de recherche graphique. Là, c'est une photo avec le collier en dessous. Là, genre, il y a tellement d'affiches bootleg qui ont été faites qui étaient mille fois plus belles. Puis pourtant, en début de carrière, tu sais, Les Amours imaginaires, je trouve que le poster, il y a quand même une signature. Laurence Anyways aussi, comme, tu sais, Laurence qui embrasse sa blonde. Mais tu sais, en général, Tom à la ferme, c'est la grosse face de Xavier Dolan. Tu sais, je sais pas, là... En général, je trouve pas que c'est sa force. Là. Il y avait une affiche qui était sortie de Juste la fin du monde qui était vraiment cool avec. C'était comme une genre de peinture.
Ben oui,
je sais pas
ben
si
oui.
vous vous souvenez. Ça, c'était vraiment beau, mais je pense que c'était l'affiche internationale. Mais nous autres, au Québec, on a genre la face du gars avec les mains sur les yeux, puis genre le titre écrit en typewriter. Là. C'est comme...
Non, mais c'était l'affiche teaser dont tu parles là, qui était vraiment superbe. Là.
Ben oui, puis l'affiche officielle était épouvantable. Là, c'est, ben, épouvantable. Je dis ça, c'est juste, je trouve que c'est lazy. Là.
Shout-out aussi à l'affiche de Jessica Chastain pour The Death and Life of Jonathan Donovan. Mais non, sinon...
oh my God!
Non, mais, le rabâche visuel de Life and Death of Jonathan Donovan, tant qu'à en parler, on va en parler sérieusement, celui-là, je trouvais que la photographie avait comme quelque chose de vraiment recherché dans le portrait photographique. Il y avait comme l'unité visuelle, je trouvais, du marketing de ce film-là était vraiment une coche au-dessus. Là, encore une fois, là, on parle de design graphique, puis de photo, puis de visuel. Là, je veux dire, ça a sa limite. On n'est pas nécessairement des experts de ça. Puis c'est juste la subjectivité qui parle. Là. Mais ça compte, on dirait, je sais pas, pour nous mousser, pour nous préparer une bonne affiche. On le sait que ça vaut quelque chose.
Vous rendez-vous compte à quel point c'est fou. On n'a même pas encore vu son dernier film. C'est un cinéaste québécois. Son gros film à gros budget, on l'a même pas encore vu. Puis son nouveau film, il sort déjà à Cannes.
Ouais. Mais bon, assez.
Excusez-le, c'est-tu. Je vais pas amener la.
Non, mais c'est vrai.
Le ton de marbre, mais c'est quand même weird là, qu'on ait même pas pu voir ça encore. Ça va faire un an, tu sais, qu'il a joué. C'était à Toronto, là.
Mais bon, écoute, on continue pas de d'épiloguer sur la carrière d'Exaderan, mais il y a aussi d'autres très grosses pointures. Films,
si le film est bon, là, ça n'a pas à voir.
Ouais. Non, tout à fait. Mais je veux parler un peu du reste aussi, là, du festival. Il y a des trucs cool. Il y a Almodovar qui est là. Toi, tu parlais de Bong Joon-ho, Rémi. Moi, je serais pas sûr que Bong Joon-ho, ça soit son année. Surtout avec Inarritu à la
tête. Est-ce qu'on fait la prédiction officielle?
Parce que moi, je me base sur le fait qu'Inarritu soit le président. Inarritu qui est un cinéaste du spectaculaire.
Oui, ouais, absolument.
Inarritu que je vois bien justement peut-être... Tu sais, je vois la liste, puis tu sais, je vois pas une Céline Sciamma gagner la faveur d'Inarritu, mettons. Puis là, encore une fois, c'est pure spéculation. J'ai aucune idée c'est quoi.
Basé sur rien, là.
Mais puis aussi, je sais pas, Bong Joon-ho, il me semble qu'il serait dû... Ben, pas dû, mais comme, il a une belle carrière. Puis si le film est à la hauteur, pourquoi pas, tu sais.
Je vais faire ma prédiction officielle.
Ah ouais.
Terrence Malick, deuxième Palme d'Or.
Mmh.
Ouais, ça c'est ma prédiction. Je trouve que Terrence Malick s'est perdu en cours de route, mais tout le monde est conscient que c'est un des cinéastes les plus influents de sa, ben, j'allais dire de sa génération, mais de quelle génération il est, Terrence Malick? C'est-à-dire, il a influencé les films à partir des années 70, puis après ça, tu sais, The Tree of Life est quasiment redevenu une signature visuelle, émulée, calquée, copiée de toute la décennie. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, je pense que Malick, il va la starter puis il va la finir la décennie, pour moi. Je crois. Mais c'est vraiment, encore une fois, basé sur très peu. Sachant qu'en plus, tu sais, bon, To The Wonder, j'ai trouvé ça, mon Dieu, passable au mieux. Je trouvais que Night of Cups, de ses films post... tu sais, ces espèces de petits reflux gastriques post Tree of Life, là, je trouvais que c'était peut-être son plus intéressant.
Mais reflux gastriques.
Mais là, non, mais là, je pense que c'est une vraie affaire.
De vomi, là. Ouais.
Non, mais là, c'est une vraie affaire. Là.
Ce film-là, ça fait longtemps qu'il est tourné également. Ça avait été tourné à peu près en même temps que Song to Song. Puis ça fait comme des années, je pense, qu'il travaille sur le montage. Ou en tout cas, on a hâte de voir ça.
Ouais.
Toi, Rémi, ta prédiction pour le fun?
Pour le fun.
Ah, moi, je suis pas calé comme Pascal. Il y a tout le temps. Je vais me plugger à Pascal parce qu'il a toujours raison. Là. Non, mais.
Ben non.
Ouais, non, sérieux, j'amènerai pas de prédiction. Je vais laisser les choses aller. Je suis plate de même. Là.
Et puis, on parlait aussi du nouveau film de Nolan qui arrive sans qu'on ait vu le précédent, mais il y a aussi Kashish dans le même cas. Parce que le deuxième chapitre de. Je pense que c'est censé être une trilogie, Mektoub My Love, qui a été annoncé. Le premier film qui jouait justement, je suis pas mal sûr, c'est l'an dernier à Cannes. Un film de 3 heures, donc, sur des amours.
Qui avait, si je ne m'abuse, aussi été annoncé un peu comme un cheveu sur la soupe. Là. Il semble aussi qu'il a été annoncé à retardement. Là. En tout cas, bref, je pense que ça fait 2 fois qu'il nous sort ça de son chapeau. Là.
Et ce film-là, Intermezzo, je crois que c'est 4 heures, alors que le premier était 3 heures. Donc, si vous aimez votre Kashish, vous allez en avoir pour votre argent lorsque ce sera disponible un jour ici. Sinon, il y a aussi le grand retour de Gaspard Noé. Un an après avoir enflammé la croisette avec son climax, il est déjà de retour avec Lux Eterna. Donc, il est en feu.
Moi, je ferai un petit shout-out à quelqu'un.
Vas-y.
Mathilde Diop, je ne sais pas si vous savez c'est qui. Elle avait fait un court-métrage que j'avais vu au FNC, qui avait gagné là, le prix des courts-métrages internationaux, qui s'appelait « Mille soleils » à l'époque. Puis Mathilde Diop, vous la connaissez aussi peut-être comme comédienne. Elle a fait son premier rôle comme comédienne sur grand écran avec le film de Claire Denis, « 35 Roms », là. J'ai joué là-dedans, mais tu sais, depuis, elle a fait plein de choses. Et là, elle arrive avec un long métrage qui s'appelle Atlantique. Mais je trouve juste que c'est ça, j'aime son univers. Je trouve que c'est une cinéaste à mettre sur votre radar là, si vous ne la connaissez pas. En tout cas, je pense que ça va peut-être être aussi une de ceux qui va faire couler beaucoup d'encre cette année. Là, ça ne m'étonnerait pas. Fait que Mathilde Diop, ça c'est bien excitant.
Ben oui, un nouveau Bertrand Bonello.
Ah oui.
À la quinzaine des réalisateurs. Donc, ouais, Festival de Cannes, c'est toujours un peu, ça donne un ton à l'année. Voir ce qui s'en vient. Il y a sûrement plusieurs trucs là-dedans qui vont se ramasser au FNC. On a très hâte de voir ça. Il y a un court-métrage de Luca Guadagnino également au festival.
Je l'avais pas remarqué.
Je sais qu'ils font un événement spécial autour de ça parce que c'est comme un film de 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, il me semble qu'ils font un truc avec. Et puis, plusieurs films aussi restaurés qui vont jouer à Cannes. Donc, dont un film de Sylvester Stallone qui est annoncé aujourd'hui. Je ne me rappelle plus lequel. Mais donc, ouais. Alors, on va vous en parler plus au courant des prochains podcasts. On va voir un peu peut-être les échos des critiques sur place. Et de
qu'on va essayer de pas faire dans un mois et demi, là, d'ailleurs.
Tout à fait. Autre gros événement cinéphilique qui est arrivé, en fait, pendant qu'on était un peu en pause et autour du monde, c'est que le fameux Criterion Channel est arrivé.
Oui!
Le successeur à l'aventure Filmstruck qui n'aura jamais été disponible au Canada. maintenant, Criterion Channel, qui est un truc 100% indépendant et géré par la compagnie Criterion, et donc qui permet de. Qui a été lancé le 8 avril simultanément aux États-Unis et au Canada, disponible sur tout plein d'applications et d'appareils, et il y en a plusieurs autres en développement, qui permet pour environ 10 $ par mois d'un accès quand même assez impressionnant au catalogue des Criterion. Tout n'est pas disponible pour l'instant. Je pense qu'ils vont garder leur carte et puis ils ajoutent les films un peu au compte-goutte. Ben oui, mais ouais. ce n'est pas uniquement que les films donc, du catalogue. Également, déjà beaucoup de suppléments d'entrevues spéciales avec des cinéastes, des discussions, même aussi des reportages sur des cinémas de répertoire un peu à travers le pays, à travers les États-Unis. Et également des films invités de d'autres collections, de d'autres distributeurs. T'sais, ils font vraiment affaire avec toutes sortes de distributeurs indépendants. Et dont aussi des courts-métrages, des jumelages, des trucs comme ça.
Ah, c'est cool, vraiment, ouais. Là.
Et il y avait Fauve qui est disponible sur le channel. Ils font un jumelage, ils appellent ça Short... comment ils appellent ça? Short plus Feature. Et là, c'était Fauve avec le salaire de la peur. Donc, quand même très, très cool. Il y a sûrement des milliers de cinéphiles qui ont découvert Fauve. Ça, c'est très, très le fun. Et est-ce que vous êtes abonné, vous, les gars?
Ouais, moi je me suis abonné direct. En fait, j'avais pris le pré-abonnement. Puis c'est vraiment en poche parce que j'ai tellement pas de temps ces temps-ci vu que je suis dans les submissions de Fantasia. Là, il me reste comme 70 courts-métrages à voir. Fait que, tu sais, tous les temps que j'ai pour regarder des films, faut que j'avance les courts-métrages de Fantasia.
Fait
que finalement, ce que je fais souvent, c'est j'ouvre Criterion Channel, je browse, je rêve un peu. Là, je fais... Ah, oh, ça serait cool. Là, je sais que les durées des films, c'est genre des... Tu sais, c'est des gros films. Fait que souvent, ouais, c'est des films de 2h30. Puis tu sais que c'est pas un truc que tu mets en background, genre Masterchef, là. C'est comme... C'est vraiment... C'est des bons films que tu t'assoies et tu regardes. Fait que finalement, j'ai vu deux films à date sur le Criterion Channel. Mais écoute, c'est certain que dès que ça va se calmer un peu, moi, je vais tomber dans le catalogue. Je me rends compte que, tu sais, j'ai tellement de trous dans ma cinéphilie. On a tous nos spécialités. J'ai écouté, là, vous allez rire, là, tu sais, je suis sur un podcast cinéma depuis quoi, 7 ans, 8 ans, là, qu'on fait ça? C'est... J'ai jamais vu de ma vie un film entier de Charlie Chaplin.
T'es-tu sérieux?
Je vous jure, puis j'ai écouté Modern Time, c'était comme, tu sais, j'ai vu du Chaplin comme tout le monde en a vu dans des cours de cinéma, là, j'ai vu des scènes, j'ai vu des extraits, je sais de quoi parlent ces films, je connais le discours politique de Chaplin, mais j'ai jamais fait... Je vais m'asseoir pour écouter un Chaplin.
Mais là, donc, t'as écouté Modern Times.
Exactement. Ce film-là, si ça se trouve, t'avais peut-être une impression de déjà-vu pendant que tu l'écoutais, tellement que c'est un film transcendant.
Ben, il y a tellement de trucs. C'est la scène de patin, je l'avais vue. La scène où il rentre dans la machine, qui essaie de réparer la machine. La scène où il se fait fider. Mais j'avais comme pas de conscience de ce qui rattachait l'histoire.
Oui,
puis aussi, c'était son premier film où il parlait, en plus. Je suis allé chercher un peu sur le film. Le film est sorti en 36. Puis, ben c'est ça, tu sais, c'est comme 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'il y avait du cinéma parlant.
Ben
mais
oui.
Il voulait pas que Charlot parle. Fait qu'il Il a introduit le dialogue de Charlot avec du gibberish, là, où il dit n'importe quoi, finalement. Mais c'est son premier film où il utilise du dialogue. C'est comme super intéressant. Fait que j'ai comme commencé par son film traditionnel. Mais tu sais, c'est comme... Ça vieillit... j'allais dire ça vieillit pas. On s'entend que c'est un film muet en noir et blanc. Ben, muet, partiellement muet en noir et blanc. Mais ça s'écoute tellement bien. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas le cinéma peut regarder Modern Time, puis... triper sa vie là, sur le film. Là. C'était vraiment un easy watch. Fait que, ouais, tu sais, c'est comme... Je brosse le Criterion Channel, puis je tombe sur tous ces cinéastes-là que, genre, on a parlé, que vous m'avez parlé, des fois même à travers le podcast, que j'ai jamais découvert parce que j'étais trop occupé à éplucher la filmographie de John Carpenter. Où,
checker Halloween 5,5, là.
Pour la sixième fois, là, tu sais. Fait que finalement, ben, ça va me rasseoir sur mon devoir de cinéaste. J'ai écouté ça, puis j'ai écouté une autre affaire que Je me disais, tu sais, c'est pas un film important, mais je vais juste... C'était juste une curiosité, là, tu sais, avant de me coucher, là, un petit film. J'ai regardé Robinson Crusoe de Louis Buñuel.
Ah, ouais.
Parce que why not, là, tu sais. Puis, tu sais, chaque fois que tu regardes un film de même, ça t'ouvre un peu comme une boîte de Pandore sur la carrière du cinéaste. Fait que là, je suis allé chercher d'où sort ce film-là dans sa filmographie. Là, j'ai comme compris qu'il avait transitionné au Mexique. Il a été dans beaucoup de pays. Puis il s'est établi au Mexique à un certain moment. Puis ça a été dans sa carrière mexicaine qu'il a fait ce film-là, qui a été tourné dans les deux langues. Puis les producteurs, ils ont réussi à gratter une nomination pour le comédien principal, qui était comme zéro connu, là, finalement, mais qui tient le film sur ses épaules. Bon, tu sais, Robinson Crusoe, là, si je peux le dire vite, ça vieillit très mal au niveau des thématiques. Là. Son ami qui est comme qui est un noir d'une tribu qui se fait prendre comme esclave, puis tout, c'est comme. On s'entend que là, c'est un vieux récit d'il y a 300 ans qui est comme adapté dans les années 50. Fait que c'est. En tout cas, c'est, éthiquement, il faut que tu passes un peu par-dessus ça, là, que tu dis que c'est, tout ça sort d'une autre époque.
Mais c'était un
cool watch. Là. J'étais content de découvrir ça dans dans sa filmographie. Puis c'est super weird parce que je l'ai regardé 4 jours. Je suis allé chercher après ça plein de trucs sur Wikipédia. Puis ça a tombé, en fait, Robinson Crusoe, le récit a eu 300 ans le 25 avril dernier, genre pile. Puis je l'ai regardé, je pense, 4-5 jours avant les 300 ans. Fait que c'était comme thématique, là. Tu fais comment?
Ben, nice.
Écoute, j'ai un morceau d'histoire, je pensais. Ouais. Mais c'est ça, mais ouais, moi, c'est une grosse recommandation, le Criterion Channel, là, pour le prix en plus, c'est comparativement à un Netflix, là, t'as comme... Tu sais, Netflix, t'as tellement de marde à travers les bons trucs. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais Criterion, c'est... T'as un job de curation, qu'ils disent en anglais.
Ouais, ouais, ouais.
Une sélection qui est faite, puis c'est des classiques. Tu peux pas vraiment te tromper, là. C'est sûr que tu peux aimer moins un genre, mais... Tu sais, même les moins bons films, ils ont comme une valeur historique. Genre, ouais, Robinson Crusoe, c'est pas un excellent film, mais il a sa valeur historique, fait que... accompagné des documentaires qu'il y a sur le channel, qu'il n'y a pas vraiment sur Netflix. Netflix, je pense qu'il y en a un peu pour les productions de Netflix. Mais là, il y a comme des documentaires, des cinéastes qui viennent parler des films. Des fois, des films que... Bon, des vieux films, mais c'est des cinéastes actuels qui viennent en parler de leur passion pour les films. Fait que, ouais, c'est super. L'application fonctionne très bien sur les téléphones, sur les ordis. J'adore ça.
Puis c'est fou parce que... Ouais. Moi, pour vrai, là, je vois ça, puis c'est quasiment de la magie, genre. Tu sais, je me rappelle quand j'étais un jeune étudiant en cinéma, puis que j'essayais un peu de, comme, ouvrir mes horizons, faire des trucs. Puis tu sais, là, t'as comme l'espèce de... Tu sais, la collection Criterion, là, c'était comme les DVD qui valaient cher, puis là, ou même des laserdiscs pour certains films qui n'étaient pas disponibles en DVD. Puis là, c'était comme... Peut-être quand ton université, on en avait une copie, ou peut-être à la bibliothèque, ou des trucs comme ça, puis comme... Tu sais, dans les clubs vidéo, il n'y en avait pas beaucoup. Souvent, il y en avait comme quelques-uns, puis c'était un peu les classiques de genre Michael Bay ou Wes Anderson, tu sais, mais les trucs plus obscurs, il n'y en avait pas vraiment. Fait que, tu sais, j'étais un peu... Puis là, je ne veux pas sonner comme genre un vieil homme nostalgique qui dit que c'était mieux avant, mais tu sais, comme si j'étais jeune, puis on m'a dit qu'un jour, ça serait aussi simple que ça, comme trouver des films de Fellini, puis de Chaplin, puis de qui tu veux, tu sais, de Buñuel. C'est quand même assez magique. Tu sais, pour la nouvelle génération, tu sais, pour ceux qui, en ce moment... découvrent un peu leur amour du cinéma puis qui veulent explorer.
C'est vraiment
une mine d'or. Puis on parle de Criterion, mais aussi Mubi, ça fait longtemps qu'on est fan aussi. Puis ces plateformes-là, c'est plus simple que jamais, en fait, de vraiment comme. Il n'y a plus d'excuses de plus.
C'est
si,
clair.
Si on a l'envie d'écouvrir le cinéma, c'est plus facile que jamais.
T'sais,
donc, bravo.
Pas que j'ai jamais de conseils à donner, mais c'est parce que ça c'est comme si ça donne qu'il y a quand même des gens, des fois, qui me demandent. En tout cas, c'est arrivé beaucoup cette année. Là, les gens, ils m'écrivent sur Messenger. Puis le seul conseil, des fois, pour des jeunes qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça faire des films, je sais pas trop comment, puis t'as-tu des conseils à me donner? » Tu sais, des fois, des affaires ben dans les airs comme ça. Puis j'en ai un, en fait. J'en ai juste un. Pis c'est, man, d'écouter plein de films. C'est genre, tu sais, j'en reviens souvent à ça, mais ça me faisait capoter comme le nombre de gens pas si cinéphiles, tu sais, comme
ouais,
dans les écoles
cinéma,
de cinéma. Mais pas juste ça, c'est que là, vois-tu, là, on a gradué quoi, là, il y a 8 ans à peu près de Concordia, moi. Bon, ça, je pense que c'est ça, 2011. Ceux qui travaillent encore activement là, en cinéma, la plupart. C'était des gens, tu sais, genre, qui transpiraient le cinéma, qui étaient passionnés de cinéma, puis qui regardaient pas juste comme, comment dire, le roulement du cinéma contemporain, tu sais, c'est-à-dire, c'est que le cinéma devient bien plus mythique, magique, puis beau quand tu le comprends d'une façon plus... un peu plus historique, ou je sais pas, tu sais, ça veut pas dire qu'il faut que t'aimes tous les films du canon, mais faut les comprendre.
C'est comme un musicien qui écoute pas de musique, là.
Ouais. Mais non, mais il y a ça, mais plus que ça, c'est comme les classiques. Encore une fois, t'es pas obligé de toutes les aimer. Il y a des films qui vieillissent moins bien, au niveau des mœurs en plus, puis au niveau cinématographique et tout. Bon. Mais c'est tellement important, ça a une autre sorte de rythme. Il y a des choses qui connecte quand même si, je sais pas, ça date d'il y a 75 ans, il y a peut-être quelque chose qui va quand même faire que, mon Dieu, le cœur y est, puis il y a quelque chose qui connecte, qui transcende. C'est important d'en voir, puis de voir c'est lesquels, ça, ces films-là, tu sais. Puis moi, je reviens tout le temps à... C'est à peu près le seul conseil que je suis capable de... que je me sens apte à donner, c'est genre, écoute plein de films, hein, écoutez plein de films, puis genre, trouvez ce qui... Faites-vous violence, faites-vous, tu sais, dans le sens... Voir des films qui vous sortent d'une zone de confort, puis genre, pas savoir si t'aimes ça, mais après ça, comme, creuser, lire sur le film, approfondir, je sais pas, tu sais, tout ça, c'est tellement important, là, en tout cas.
Mm-hmm. Moi, je dirais aussi, tu sais, il y a eu des articles qui sont sortis là-dessus, mais le conseil de mon bord, c'est garder les formats physiques. Mm. Parce que là, on est chanceux d'avoir ces plateformes-là, mais tu sais, avec les nouvelles qui sortent, il y a des licences qui vont être perdues, il y a des films mm-hmm. qui vont être vraiment difficiles à trouver.
Mm-hmm.
Garder les formats physiques des films, surtout des films, tu sais, un peu plus nichés, là, les films d'auteur, les films internationaux, les films locaux aussi, les films québécois, c'est difficile à trouver.
Ouais.
Tu sais, récemment, je fouille encore mon bac de DVD, puis je me suis pogné, j'ai trouvé Vic et Flo ont vu un ours.
Tu sais,
j'ai trouvé un DVD, puis c'est comme, je l'ai acheté, puis... Parce que je le sais que c'est un film qui est difficile à trouver, mais plus ça va aller, plus il va être difficile à trouver là, dans 10 ans. Ça va sûrement être vraiment compliqué, là, je crois, là, si on continue dans la même direction. Fait que, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un format physique. Là, le film t'appartient. T'sais, c'est, quand tu adhères à une plateforme comme Criterion ou comme Netflix, ben, tu payes pour le droit de l'écouter à travers la plateforme, mais tu ne payes pas pour que le film... t'appartiennent à toi, chez toi. Fait que, tu sais, t'as pas de contrôle dessus. Là. S'ils l'enlèvent de la plateforme, ça se peut que tu le retrouves plus, ce film-là. Fait que, en tout cas, moi, je m'ennuie un peu de l'époque. C'est full nostalgique, là, mais de fouiller dans des bacs de DVD, dans des brocantes, puis tomber sur une perle qui est comme... que le gars de la brocante, il a aucune idée que ça vaut... ça vaut 40$, là, tu sais, que t'as ton petit DVD édition spéciale, là, puis t'es super content, là. Fait que, mais sinon, tu sais... L'option Criterion est une très bonne option pour se cultiver.
Ben, c'est clair. Puis, tu sais, juste pour revenir à Chaplin rapidement, tu sais, puis c'est drôle parce que tu mentionnes Modern Times, puis tu mentionnes Chaplin précisément, tu sais. Chaplin, c'est le genre de. C'est un personnage qu'on a tout le temps l'impression qu'on a vu ou qu'on connaît jusqu'à ce que tu t'assoies réellement pour en regarder un film. Puis, tu sais, moi, Chaplin, ça m'avait fait à peu près la même chose que toi, Rémi, quand tu parles de Modern Times. Mais moi, ce qui m'avait surpris, c'est à quel point ces films étaient touchants. Mm-hmm. Ça, on dirait que je le savais pas. C'est-à-dire, comme, tu sais, dès que tu regardes juste des clips. C'est comme, évidemment, que les clips qu'on va regarder sur YouTube ou qu'un prof de cinéma, des fois, tu sais, vont te montrer. Bon, quoi que la fin de City Lights, avec la fleur puis tout ça, tu sais, ça, c'est quand même montré beaucoup. Mais en général, on s'entend, c'est plus comme les sketchs, comme les trucs plus comiques.
Ouais, c'est les...
Alors que Chaplin, c'est récurrent, mais je veux dire, moi, ces films m'émeuvent là, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ça, on dirait que comme, on pourrait penser qu'on sait, qu'on connaît, mais... jusqu'à ce qu'on le voit réellement puis qu'on prenne le temps de le voir réellement. Puis moi, je me rappelle, ça m'a fait une grosse leçon d'humilité. J'ai fait « Ah, c'est ça, Chaplin, c'est pas juste des gags, genre. C'est comme, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant, c'est vraiment humain, c'est un grand humaniste, Chaplin, tu sais. » Fait que...
Ouais, parce que, aussi souvent, un film n'est pas son synopsis, t'sais.
Non, c'est
puis,
ça.
Puis on est rendu un peu dans une ère où on est tellement envahi de contenu. Puis là, tu sais, on vient de faire justement l'éloge de Criterion Channel puis de Mubi, tout ça, mais tu sais... c'est pas un marathon être cinéphile, c'est pas, tu sais, faut pas tout voir, faut pas nécessairement, et avec le Marvel Cinematic Universe, tout ça, c'est bien cool, tu sais, mais on dirait qu'on est rendu vraiment à l'ère du scénario, tu sais, puis à l'ère de il faut tout savoir, puis des recaps, puis qui fait quoi, puis c'est où l'histoire, puis toutes les séries télé qui existent, t'sais. Puis c'est comme, pour moi, le cinéma, ça va au-delà du scénario, tu sais. Parce que sinon, il y a la littérature pour ça aussi, puis il y a d'autres formes d'art. Tu sais. Puis comme un truc comme Chaplin, le synopsis, on s'en fout. C'est aussi ça qui fait que c'est du cinéma. Tu sais. Fait qu'en tout cas, continuez effectivement, continuez à avoir du cinéma, votez avec votre,
vieux.
Avec votre portefeuille.
Ouais, on est rendu vieux, faut pas, on parle ça... comme des vieux pépères.
Mais faut pas, moi, tu sais, sérieux, là, je pense qu'il y a genre... 8 ans, là, genre dans le temps que je suis à Concordia, j'aurais peut-être pas crié out loud que j'avais jamais vu Chaplin, mais il y a comme... on dirait que j'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas de honte à pas avoir vu certains films de certains cinéastes. Là.
Mais moi-même, je suis jaloux. Moi-même, je suis jaloux de certaines personnes qui vont enfin pouvoir découvrir un cinéaste incroyable pour la première fois.
Il y a une période où je me sentais mal. Puis j'étais comme, oh, fuck, j'ai pas vu ça. Puis je me sentais super mal de comme pas être à l'affût. En même temps, j'ai comme, les connaissances sont à bien des places. Fait que faut pas avoir peur là, de comme s'aventurer là-dedans puis d'en jaser. Mais c'est juste bizarre parce que, tu sais, j'ai fini Modern Time avec ma copine. Elle l'avait déjà vu. J'ai pu en jaser un peu avec elle. Mais après ça, j'étais comme, j'aimerais ça jaser de Modern Time avec des amis cinéphiles. Mais c'est comme tellement weird. Genre, hey, avez-vous ça, Charlie Chaplin, guys? Connaissez-vous ça? Slowpoke, là.
Ouais, mais en même temps, on a un podcast pour ça. Fait que c'est le fun.
Ouais.
Et puis, puis moi, je trouve que les plateformes en ligne, puis les plateformes de streaming, c'est vraiment un sujet, je trouve, intéressant parce que j'ai l'impression que c'est la grande révolution de notre époque. Puis j'ai hâte de voir un peu où ça s'en va, tout ça, puis comment le portrait va se dessiner. On sait que Disney va lancer sa chaîne Disney Plus comme au courant de l'année / en 2020.
Ouais.
Donc, ça, c'est très excitant aussi. Toutes sortes de projets déjà annoncés. Puis évidemment, Disney, bon, ben, c'est le mastodonte de notre époque. Donc, tu sais, leur channel va sûrement être très intéressant. Ils ont déjà un catalogue assuré qui va être alléchant.
Ben, ils vont brasser l'écosystème, au minimum, ça que ça va faire. Ouais. Là,
puis en même temps que Netflix va perdre une grosse partie de son catalogue aussi.
Ouais.
Donc, on a hâte de voir comment ça tout va se passer. Du côté des tout petits joueurs, là, un nouveau là, qui arrive au Québec, on a déjà parlé, c'est Tank. Sont présentement, en fait, je pense que c'est la pré-vente un peu. Ils ont comme une campagne de financement sur Ulule, il me semble. Mmh. Et on peut, dans le fond, se prendre un pré-abonnement. Il y a comme un rabais sur l'abonnement. Je pense que ça va être 100$ annuel ou 10$ mensuel, quelque chose comme ça. Et si on l'achète en ce moment, c'est 80$ annuel, donc 20$ de rabais.
Okay.
Et Tank, on avait déjà un peu parlé, c'est une plateforme dédiée uniquement au cinéma documentaire, petite plateforme qui a été créée à Lussas, en France, un tout petit village. Et donc, c'est deux Québécoises qui s'occupent d'amener le projet au Québec. Et donc, pour les fans de documentaires et de documentaires plus indépendants, et internationaux, etc. On vous encourage à aller voir la page Facebook et de voir tous les renseignements là-dessus.
Mm-hmm. Puis, tu sais quelle plateforme il ne faut jamais oublier? Des fois, on dirait que j'oublie un peu puis je me sens toujours mal de l'oublier. Puis après, parce que ça arrive des fois comme qu'on a du temps puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on regarde à soir? T'sais? Puis là, évidemment, il y a différentes options quand ça se passe. Ma copine et moi, là, on a, y a tous les DVD physiques qui sont là dans le coin. Bon, évidemment, il y en a plein qu'on pourrait redécouvrir ou que je pourrais lui faire découvrir. Bon, ça c'est une des options. Moi, je suis abonné Mubi déjà. Donc, tu m'as demandé, je suis abonné Criterion Channel? Non, mais peut-être que je remédierai à ça, en fait. J'y pense. Là. Peut-être pas là maintenant. Là, mais mettons quand j'aurai un creux un peu plus là, parce que là on est en pré-prod d'un film puis ça va débouler vite, mais c'est peut-être quelque chose là, genre à partir du temps des fêtes là, genre cette année là, genre je m'abonne puis je binge là, plein d'affaires. Bon, ça c'est le Criterion Channel, mais je voulais juste la plateforme de l'ONF, faut jamais l'oublier.
Ben oui.
Il y a plein d'affaires gratuites tout le temps. Genre, tu cherches de quoi à regarder, là, va sur la plateforme de l'ONS, là, c'est sûr que t'as un classique québécois que t'as pas vu, là, c'est sûr. Mm-hmm. J'ai réécouté récemment du Anne-Claire Poirier, j'ai revu Les Filles du Roi d'Anne-Claire Poirier, un film super obscur, parce qu'elle, c'est plus Mourir à tue-tête, Mourir à tue-tête, que les gens connaissent, qui est aussi, d'ailleurs, gratuit, by the way, tu sais, sur le site de l'ONS. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de très bons films, là, genre, faut jamais l'oublier, voilà.
Ouais. Moi, j'écoutais sur le Criterion Channel dans les derniers jours des courts-métrages des Frères Safdie.
Ouais.
Fait que c'est très, très cool. Il y a aussi comme une espèce de documentaire sur eux qui était pendant le tournage de Good Time. C'est vraiment nice. Puis c'est le fun aussi, la navigation sur l'application, je trouve, du Criterion Channel. C'est comme vraiment tout le temps un peu par bloc thématique de comme 3, 4, 10, 15 films avec souvent une introduction ou une mise en contexte. Ou des fois aussi, tu peux aller comme ce qu'appellent les Complete Edition. Là. Fait que c'est comme vraiment l'équivalent de ton Blu-ray Criterion avec tous les suppléments sur une même catégorie, dans un sens. Là. Fait que c'est comme une navigation qui est moins impersonnelle que celle d'un Netflix, par exemple, où tu browses, puis t'as l'impression que c'est foutu un peu n'importe comment, puis que c'est comme des algorithmes un peu qui te mettent ça un peu, tu sais. Combien de fois c'est arrivé, là, des jokes de genre... Ah, tu as aimé le dernier film de Scorsese, voici le nouveau spécial de Adam Sandler, tu sais, t'es comme ouais, ça part en
ouais.
Tandis que là, vraiment, t'as l'impression qu'il y a une réflexion sur la navigation de, sur le Channel Crayon, fait que.
Hey, j'ai eu du intel, j'ai eu des quelque chose que j'ai su entre les branches. Oh. Je fais un petit shout-out à mon ami Patrice Laliberté qui me parlait là, de sa fin de tournage, puis là, il est bien content, il est en montage, en tout cas, on s'est croisés récemment, puis il m'a jardé de ça. Je pense pas que c'est une info secrète, mais si oui, ben là, vous êtes à une heure dans le podcast, fait que vous méritez une info secrète, si c'en est une.
Oh.
Mais chaque film là, sur Netflix, là, ils ont 5 à 7 thumbnails différents. Puis en fonction de ton profil de consommateur. Tu le savais ça, OK? Mais moi, je savais pas, mais c'est génial dans ce sens. OK. Fait que, mettons que moi, je suis plus art house, mais là, genre, le thumbnail du film qui va m'être présenté, ça va être comme ça va fitter selon mon comportement. Mais tu sais, évidemment que Netflix fait ça, mais c'est tellement simple, mais génial comme idée, genre, j'avais jamais pensé.
Puis en fait, de temps en temps, même les images vont changer pour toi. Si les films, ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ta watchlist, là, dans ton my list, et qu'ils se rendent compte, c'est l'algorithme, là, qui voit que ça fait plusieurs fois que tu passes par-dessus sans l'écouter, là, ils vont changer le thumbnail pour voir peut-être qu'une autre image va plus t'attirer. T'sais.
Eh ben.
C'est un peu Big Brother, mais honnêtement, moi j'adore Netflix, puis comme, tu sais, je pense que trop souvent, on met l'un face à l'autre, là, comme, tu sais, faut canceller Netflix pour encourager tout.tv, des trucs comme ça. Je pense que toutes les plateformes ont le droit de coexister. Mais bon, en même temps, je suis pas non plus contre la critique. Netflix, ça, c'est pas parfait. Hein. Donc, voilà. Alors, écoutez, c'était notre point de vue cette semaine.
Non! Hey, wow, on n'a pas parlé de Us!
Ah, oh, tu veux que... Okay, rapidement.
Peux-tu faire une petite aparté juste sur Us?
OK, fait que rapidement... Oui, on en a parlé, c'est ça. On l'avait annoncé un peu au dernier podcast. On n'avait pas eu le temps de l'écouter. Et là, ça, toi, tu l'as écouté juste après l'enregistrement du dernier podcast.
Ben, je l'ai vu genre 2 jours après le podcast. Vous autres, l'avez-vous, les gars?
Non, même pas, mon Dieu.
Ah, OK, ben c'est ça, mais c'est parce que je veux mettre un peu mon grain de sel là-dedans parce que le hype est tellement fort sur Us. Puis, tu sais, je vais dire d'emblée, moi, j'ai été assez déçu là, du film. Puis, tu sais, c'est un peu un film qui est fait pour moi, dans un sens. C'est le genre de film que, de base, m'attirerait beaucoup. Puis, je trouve que les critiques sont un peu weird parce que tout le monde note les points négatifs, mais disent « si tu y penses pas trop, ça reste un bon film ». Mais je comprends pas cette façon-là de juger le cinéma, de tu y penses pas trop, parce que je veux dire, je peux appliquer ça à tellement de mauvais films, si tu y penses pas trop, c'est correct, tu sais. Mais c'est que Jordan Peele a fait son succès sur le scénario, puis je trouve que c'est la grosse faiblesse du film, c'est le scénario. Fait que, tu sais, grosso modo, c'est une famille afro-américaine qui vont dans un week-end, dans un chalet. La femme, en fait, est pas trop down d'aller dans ce chalet-là. On comprend qu'il y a eu un traumatisme dans son enfance. Puis le premier soir, il y a des bon, c'est pas un spoiler, là, c'est dans la bande-annonce.
C'est des doppelgangers.
C'est des doppelgangers. C'est des étrangers, mais qui sont identiques à eux, qui les enferment dans leur maison, puis qui les torturent, puis que là, tu essaies de comprendre un peu les rouages de comment tout ça se peut.
Mm-hmm.
Il y a un bon build-up qui se fait. C'est un film vraiment maîtrisé. Là. La réalisation est impeccable. Il y a des scènes de tension, d'horreur vraiment fortes. Il y a de la bonne comédie. Il y en a qui ont chialé qu'il y avait trop de comédie. Ça, tu vois, c'est un truc qui m'a pas dérangé. Parce que je trouve que le cinéma d'horreur, c'est toujours bénéfique quand il y a de l'humour. Il faut que tu balances avec des jokes pour avoir des bons scares. Là, Jordan Peele crée des beaux moments de cinéma. Puis ça te fait vraiment comprendre pourquoi il est à la barre de Twilight Zone. Là. Il est vraiment à sa place. Puis le troisième acte arrive, puis c'est là que tout est expliqué. C'est vraiment en poche parce que je peux pas vraiment en parler en détail sans rentrer dans un territoire de spoilers. Fait que, tu sais, je l'aborderai pas, mais je vous dirais que toutes les explications de l'histoire, ben, en fait, il est allé comme à la mi-chemin entre pas expliqué puis trop expliqué. Fait que finalement, il nous donne des infos pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais il va jamais très loin dans la mythologie pour vraiment justifier comment ça s'est passé, les doppelgangers. Tu sais, comme au fil du film, tu réalises que d'autres doppelgangers, que comme tu sais, ça c'est des petits trucs que je peux peut-être dire dans la sans trop spoiler là. Mais ils découvrent doucement que bon, la famille découvre que c'est peut-être plus grand que seulement centré sur leur famille. Puis dès que ça prend cette tournure-là, il y a des trucs à expliquer ou il y a des trucs à ne pas dire, puis tu laisses ça comme un film le fun d'horreur weird, tu sais, vraiment un Twilight Zone là où il y a, tu peux jouer sur la morale, mais t'as pas nécessairement à jouer sur les raisons de comment ça se passe. Puis au début du film, il y a un carton qui donne des indications sur des tunnels en dessous des États-Unis. Puis ça, c'est un truc que tu peux te garder en tête tout le long, puis j'ai même l'impression que c'est probablement une note de producteur d'avoir mis ça au début du film pour essayer de justifier encore plus comment c'est possible. Mais au final...
Un peu à la momie, là, avec le petit carton au début, là.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu sais, momie d'Exédelan, là, que genre l'espèce de... Dans un futur proche, il est possible de laisser son enfant, c'était...
Ah, oui, ça, j'avais oublié complètement ça. Sorry.
Ouais, ben justement, on l'oublie parce que finalement, c'est pas tant nécessaire. Là,
ben, c'est une statistique, ça dit en gros que aux États-Unis, il y a tant de kilomètres de tunnels secrets et barricadés en dessous du pays. Fait que ça ouvre avec ça, puis ça a comme pas rapport jusqu'aux trois quarts du film. Mais tu sais, j'y pensais de temps en temps, là, j'étais comme, OK, c'est sûr qu'il y a un rapport avec ça. Puis oui, il y a un rapport avec ça, là, c'est pas un spoiler, je pense que c'est assez évident s'ils le mettent au début du film, mais... Ça explique pas plus, tu sais. Il y a pas de raison de pourquoi. Puis c'est là que les gens, ils font « Ouais, mais si tu y penses pas trop, c'est pas grave. » Ouais, mais c'est grave parce que c'est... Il essaie d'expliquer pourquoi il y a des doppelgangers, mais il essaie pas tant que ça, tu sais.
Alors que peut-être que ça aurait été préférable de le laisser un peu, justement, dans l'allégorie puis de pas tenter de l'expliquer.
Ah, c'est ça, exact. T'expliques pas ou t'expliques tout. Tu restes pas entre les deux. Puis ça, le film crumble complètement pour moi. Le troisième acte, il y a même une scène là, d'un personnage qui explique des affaires en monologue. Tu sais, il y a une scène de même. Là. T'sais, c'est Jordan Peele est praise pour ses scénarios, mais là, sorry, man, mais tu l'as échappé. Là, tout ton film il est vraiment, vraiment tête, mais au niveau du scénario, ça fonctionne pas. Puis pour ajouter à ça, il y a une twist à la fin du film qui marche encore moins que tout le reste. Puis c'est une twist que je me suis comme douté au début du film en voyant certaines shots parce que c'est un cue visuel tellement classique dans le cinéma d'horreur. Puis cette twist-là, elle arrive à la toute fin, mais le film, il n'y a rien qui marche en fait. Si le film a été joué comme ça par les comédiens, il n'y a aucune raison que ce twist-là arrive à la fin. C'est vraiment pour comme faire un twist Shyamalan là, de comme « Oh, je vous ai eu, mais ça ne marche pas du tout. » Fait que, en tout cas, c'est super bizarre d'en parler de même parce que je peux pas, tu sais, je peux comme rien dire.
Puis pourtant, je trouvais que, tu sais, comme juste le titre, je trouve que c'est un coup de génie, tu sais, parce qu'on peut lire aussi comme US, tu sais, comme les États-Unis. Puis à ce que moi j'en sais du film, tu sais, ça a l'air quand même aussi d'être une critique sur ce qui se passe en ce moment, puis sur les tensions raciales, puis tout ça. Donc, je trouvais que ça avait l'air d'être sur papier un projet ultra prometteur fait par une personne en qui j'ai confiance, justement.
Ouais, puis ça tu sais, ça fonctionne. Au niveau de la critique sociale, c'est il y a beaucoup d'évidence. C'est fait avec goût parce que c'est un bon réalisateur, c'est un bon scénariste, c'est un bon producteur. Tu sais, c'est son film, là. C'est vraiment lui qui a le contrôle. Puis de base, c'est un bon scénariste. Mais moi, pour vrai, si ça avait fini aux deux tiers où j'ai pas de réponse, mais que j'ai passé un bon moment. Tu sais, dans un film d'horreur léger, tripant là, avec plein de surprises dedans, moi, je suis satisfait. Le troisième acte fait aucun crisse de sens. Puis pour moi, c'est là que ça passe d'un très bon film à quelque chose de moyen. Là. C'était... Je suis sorti comme... Ah, OK, bon, ben... Je sais pas, là, ça... Ça m'a comme fait débander un peu, le rendu là.
Mais tu sais, on a tellement tendance à toujours déifier les cinéastes, là, tu sais, puis...
Ouais.
Peut-être que Jordan Peele, pour Get Out, c'est le fait qu'il y avait un producteur qui proposait des suggestions aussi, puis tu sais, puis là, j'ai l'impression qu'avec le succès de Get Out, il y a eu carte blanche, puis c'est peut-être là aussi que la différence entre les deux films, tu sais.
Ouais, ben tu sais, c'est fort possible, puis tu sais, ça reste que c'est... Comme je disais, c'est son film là, en part entière, vu qu'il est coproducteur. Fait que il a plus vraiment d'autres raisons que c'est. Ben, c'est un peu de sa faute, là. Mais tu sais, en même temps, je dirais pas que c'est un mauvais film, c'est à éviter à tout prix. C'est juste pour moi un peu décevant dans ce qui faisait le succès de Jordan Peele avec le premier film. Ben là, je l'ai pas retrouvé, tu sais, ce truc-là. Mais tous les autres aspects sont couverts et sont très maîtrisés. Tu sais, dans l'écurie Blumhouse, c'est sûr que Jordan Peele est au-dessus de tout. Us est au-dessus des 25 autres films que Blumhouse a sorti l'année dernière. Là, Blumhouse sort tellement de crap, c'est du hit and miss, que oui, Jordan Peele, c'est un des meilleurs de cette gang-là, mais c'est ça. C'est juste ça. Pour moi, ça fait pas... Fait que je vais juste mettre ce bémol-là, parce que j'ai vu toutes les... Même des channels YouTube que je suis de critiques, les Red Letter Media, ils ont tous utilisé la critique de... Si tu y penses pas trop, c'est correct. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas suffisant. Fait que vous en ferez votre propre avis. Laissez vos commentaires en dessous. Mettez un like. Likez-nous. Point de vue. Point de vue.
Mais je suis quand même content que ça soit un des films qui a le plus de succès en termes monétaires de l'année.
Ah, c'est clair.
Parce que c'est quand même un des rares films originaux qui va faire de l'argent cette année. Parce que tu regardes le calendrier, puis... Tu sais, c'est de plus en plus... Là, Disney vient de racheter Fox, mais les années prochaines, là, est-ce que vous avez vu un peu le calendrier qu'ils ont annoncé pour les...
Oh, ouais, j'ai même pas envie d'en parler.
9 prochaines années. Fait qu'en tout cas, au moins, il y a encore des créateurs. Puis, tu sais, il y a certains cinéastes comme ça qui ont encore du pouvoir.
Dans ce paysage-là, là, Christopher Nolan, là, c'est genre le messie, pour vrai.
C'est l'anomalie, ouais, tout à fait.
C'est comme...
Fait que... Ouais. Fait que j'ai encore foi en ces gens, Jordan Peele, Nolan, ça, qui, même si j'aime pas tous leurs films.
Non, vraiment pas. C'est
un point fort, là. C'est comme les Wachowski, tu sais, avec leur dernier film qui était épouvantable, là, Jupiter Ascending. Mais c'est la seule chose original que je peux leur donner, c'est ça. Ils se sont plantés royalement, mais ils ont essayé de quoi, tu sais, puis c'est pas basé sur rien d'autre. C'est fucking à chier, là, mais tu sais,
bon.
le petit 0.5 point que je donne au film, c'est parce qu'ils ont comme essayé de faire de quoi en dehors de Avengers. Sur ce, avez-vous vu Avengers, les gars? Pas moi, pas Pascal. Paul, non. L'as-tu vu?
Ah ben oui, je l'ai vu le premier week-end dans une salle comble, IMAX, première rangée.
Mais je vais aller voir au cinéma, celui-là, là. Tu sais, c'est comme un peu... C'est la fin de la série, là, tu sais, c'est comme...
Ouais.
Mais même ça, j'y crois plus, les gars. Même ça, j'y crois plus. Ils ont annoncé, non, là, écoute, il y a genre un mois que Star Wars, ils prenaient une pause, là. Puis là, hier, ils annoncent que, genre, ben, la pause a duré 3 ans, puis en 2022, il va y avoir un nouveau film. T'es comme... J'y crois même pas. Ouais. Ils vont mille de cœur, mais... jusqu'à ce là, que le public, ils vont plus. Là, non, Avengers bat des records. Ils vont en faire un autre, genre.
Oui, mais Avengers, en fait, c'est que ça va être un univers parallèle qui va se créer sur la franchise. C'est juste que c'est le dernier film avec tous ces comédiens-là. Ça fait quand même 15 ans. Moi, j'en ai vu, je pense, 18 sur 22. Là, il m'en manque peut-être 3-4 dans toute la bunch. Je suis comme rendu là. Ça va me coûter 15$ pour voir un film de 3 heures avec plein d'effets spéciaux au cinéma. Le dernier, je l'ai même pas vu au cinéma, mais celui-là, je vais attendre que ça se calme un peu, puis c'est clair, je vais aller le voir. Fait que peut-être dans notre podcast Slowpoke, vu qu'on parle de Us 2 mois en retard, on va peut-être parler d'Avengers d'ici 2 mois aussi.
Mais le coup de génie de Marvel, Sage Disney, c'est d'avoir transposé la télévision au grand écran. Parce que Endgame, pour vrai, là, c'est comme la saison 3, épisode final. T'sais, c'est vraiment rendu ça. Puis ça marche, c'est un système qui marche. T'sais, parlez à vos amis autour de vous. Là, qu'est-ce qui marche là, de nos jours? C'est la télé. C'est ça. Comme je pense qu'il n'y a à peu près aucun film de cinéma cette année qui aura plus de retentissement que lorsque la saison 3 de Stranger Things va sortir. T'sais. Donc, c'est un peu ça. Puis moi, Avengers, pour moi, c'est ça. C'est comme la finale d'une grosse série télé qui vient comme un peu fermer tous les arcs narratifs ouvert dans tous les derniers épisodes. Mais c'est pas négatif nécessairement.
Ah, mais quand ils le font en improvisant, tu peux pas bien fermer tout ce que t'as ouvert, tu sais. T'as le syndrome de la finale de Lost épouvantable qui essaye de tout fermer qui ferme rien. Puis là, c'est une poursuite vers l'avant que tu pourras pas la résoudre, genre. Tu peux pas résoudre.
Ah, mais
tu peux pas finir
dit,
un
contre...
film de MCU de façon tight, genre, quand les premiers films, c'était il y a 15 ans, puis t'avais aucune idée. Tu sais, c'est des films qui ne répondent qu'à l'argent, là. Genre, tu sais, dans le sens, il est censé avoir une suite jusqu'à ce que le film se plante, tu sais, dans un sens, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme...
Je comprends ce que tu dis en théorie, mais pour avoir vu le film, je peux te garantir que s'il y a une chose qui le fait bien, quand même, c'est vraiment de tout... comme de mettre un point final sur une aventure qui, trop souvent, c'est des films sans conséquences. Des films un peu parallèles ou de statu quo qu'on fait un pas de côté. Ça, ça sonne vraiment comme... C'est vraiment comme le Return of the King là, de cet univers-là où il y a comme, tu sais, 8 fins puis ça finit plus puis tout le monde fait leurs adieux. C'est un peu ça, ce film-là.
Puis je prédis un peu l'essoufflement dans les temps qui vont venir parce que ça reste le plus gros box-office, mais c'est parce que, justement, c'est la fin de la série. Fait que, tu sais, quand ils vont commencer à changer les comédiens, il va y avoir du chiolage de « Ah, oh, il est pas aussi bon que tel autre qu'il jouait. »
Ouais, ça va mourir après
ça. C'est sûr que ça sera pas instantané, ça va prendre plusieurs années, mais l'essoufflement va commencer, d'après moi, post-Avengers.
Sauf qu'on le
peut-être
remplace
que je vais me
par quoi?
Peut-être que dans 10 ans, on va en faire encore point de vue, puis j'étais comme « Ah, vous souvenez-vous, dans le temps, en 2019, quand j'ai dit que ça s'essoufflerait, en tout cas, Avengers 12 est crissement bon. Ça se pourrait, là, mais tu sais...
On appellera plus ça des films, on va appeler ça des Disney. Genre. Donc, écoutez, c'était notre point de vue. On va se quitter sur la bande-annonce du documentaire « Hack Montréal » d'Alexandre Sheldon, un documentaire québécois qui se penche sur l'Internet en 2019, sur la vie privée et tout ça. Ça a l'air bien intéressant. C'est notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Et Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Les gens, là, ils veulent du ubiquitous computing, ils sont prêts à avoir Amazon qui surveille 24 sur 24 dans leur maison comme petit appareil. Google sait tout ce qu'il fait, tout ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont, tout.
We have thousands of surveillance cameras, only for your safety, only for your safety.
The level of surveillance imposed on us today is more than in the former Soviet Union.
You've surrendered that information, you can't get it back. You can't put the genie back in the lamp.
Privacy is about freedom, privacy is about autonomy, privacy is about self-determination. Privacy is about being able to think the thoughts for yourself and not be coerced into behaving or thinking in a certain way. It's about growing as a person, especially for young people, and it's about growing as a society.